Vous connaissez forcément Cube, Culture Bretagne. C'est une plateforme numérique en accès libre qui réunit plein de trucs, des docus, des fictions, des créations sonores, des reportages écrits ou des galeries photos, certaines d'ailleurs produites par Silab ou l'Accord Lab. Ce webmédia breton compte depuis un mois une nouvelle coordinatrice générale, Bérangère Portalier. Bienvenue à elle. Elle n'est autre qu'une des fondatrices du magazine Cosette. Et à Silab, on en a profité pour pouvoir échanger avec elle sur son parcours, son militantisme et sa vision du journalisme. Je ne vous en dis pas plus et leur laisse la parole à elle et Jeanne.
Bonjour Bérangère Portalier.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, une des fondatrices de la revue Cosette, dont vous avez été rédactrice en chef pendant plusieurs années. Votre parcours vous a mené ensuite aux côtés de l'ONG Ensemble Agir contre la peine de mort. Vous aviez alors un rôle davantage dans la communication autour des congrès mondiaux contre la peine de mort. En 2016, vous avez publié Sexe sans complexe, un livre illustré sur la sexualité à destination des ados. On y reviendra tout à l'heure. Depuis peu, vous avez intégré le Média Cube, Culture Bretagne, en tant que coordinatrice générale. Mais avant d'aborder ce dernier point, j'aimerais d'abord revenir sur votre parcours et notamment votre expérience chez Cosette, si vous le voulez bien.
Oui, bien sûr.
Cosette, plus féminine du cerveau que du capiton, c'est le seul magazine féminin reconnu comme une publication d'information politique et générale. Est-ce que c'était ça l'enjeu pour vous à l'époque, de proposer une presse féminine qui ne soit pas exclusivement tournée vers des choses stéréotypiquement féminin, comme la décoration d'intérieur, le maquillage ou l'éducation des enfants?
Le constat de base qui nous a lancé sur l'idée de faire Cosette, c'était de vouloir proposer de la presse féminine de qualité. On n'avait même pas forcément encore à ce stade mis les mots de féminisme sur notre démarche. Nous, c'était plutôt une démarche de journaliste et on voulait faire de la presse de qualité. Et on avait fait le constat que, bien évidemment, toute la presse féminine était décidément un petit peu en dehors de tous les critères qualitatifs qu'on espérait voir. Et c'est quand on a donc créé cette revue féminine de qualité, avec des sujets de fond, avec du vrai journalisme, et quand on a montré notre idée aux gens autour de nous et au public, quand on a vu les réactions des gens, on s'est rendu compte qu'en fait c'était une démarche féministe. Mais effectivement, à la base, c'était plus une démarche de journaliste. Quand on a vu que ça faisait un peu rire au départ, quand on proposait du journalisme féminin de qualité, enfin pour les femmes, à destination des femmes de qualité, quand on a vu que ça faisait un petit peu rire, les gens nous ont dit mais si vous enlevez les régimes et le maquillage, qu'est-ce qui va rester, quoi? En quoi ça va être un féminin? Comment ça peut être du journalisme de qualité si c'est un féminin? En fait, la porte avait tellement pas été poussée, c'était tellement novateur que les gens n'arrivaient même pas à imaginer de quoi on parlait. Donc je pense qu'on a répondu à un manque. Il y avait vraiment ce trou noir dans le paysage médiatique et on a pu combler ce trou.
Et donc c'est là que vous êtes dit, il y a une démarche féministe derrière la création de cette revue, au-delà du côté féminin.
C'est ce rire qu'il y a eu quand on a dit qu'on allait faire de la presse féminine de qualité. C'est cette question, mais alors, si c'est de qualité, pourquoi c'est féminin? Enfin, ces réactions extrêmement violentes, narquoises, rigolardes. Là, on s'est dit, mais c'est fou, la violence. On s'attendait pas du tout à ça. Ça nous paraissait tellement naturel. On n'avait pas du tout anticipé la violence des réactions. Et là, effectivement, on est rentré de plein pied, de façon consciente dans le monde du féminisme, et on s'est dit, en fait, on a une mission de soutenir quelque chose. On doit non seulement soutenir la presse de qualité, mais là, on comprend aussi à quel point derrière ce mépris pour c'est un mépris pour les femmes, en fait, de pas leur proposer de presse de qualité. Et dès qu'on l'a compris, on s'en est emparé, on a décidé d'assumer ça.
Et est-ce que vous aviez le sentiment, peut-être, que la presse généraliste et politique ne s'adressait principalement qu'aux hommes?
Oui, clairement. Mais ils se rendent... C'est très difficile de les faire accepter de s'en rendre compte. Pourtant, ça se voit quand on voit les lecteurs. Mais en fait, ils se disent pas que s'ils ont plus de lecteurs que de lectrices, c'est parce qu'ils ne s'adressent pas aux femmes. Ils en concluent que les femmes ne s'intéressent pas à l'actualité, à la politique. Ce qui est complètement faux. C'est juste que on ne s'adresse pas à eux. Le sous-entendu de chaque article, c'est un entre-soi masculin. Les sujets sont des sujets qui impriment une hiérarchie dans laquelle tout ce qui est féminin est mis un peu à la fin, à côté de l'horoscope. Et en fait, ils se rendent pas compte. C'est toujours un peu cette problématique qui existe dans de nombreux endroits, qui est que ce qui est général, en fait, est masculin. Et donc, ce qui est féminin est un peu toujours traité comme une minorité.
Est-ce que vous avez eu des retours, justement, de lectrices qui avaient vraiment l'impression, cette fois, de s'intéresser à des sujets auxquels elles ne se seraient pas intéressées autrement, via Cosette?
C'est pas tant que ça les avait fait s'intéresser à des choses auxquelles elles ne seraient pas intéressées, c'est plutôt qu'elles avaient des intérêts pour lesquels elles ne trouvaient pas de médias correspondants et que là, elles ont trouvé un média qui correspondait à leurs intérêts. Après, j'espère qu'on a pu ouvrir l'esprit de nos lectrices, bien sûr, mais les retours, c'était plutôt des personnes qui étaient frustrées de pas se retrouver et qui ont pu enfin trouver un espace médiatique dans lequel se retrouver elles.
Est-ce que entrer par la porte du magazine féminin, c'était aussi une façon d'aborder des sujets féministes, du coup, et dédiaboliser cette lutte, de faire prendre conscience des fois aux femmes de l'existence de ce mépris
Eh bien, on ne l'a pas fait pour ça à la base, puisque à la base, on n'en avait pas conscience. Donc, on n'a pas à la base cherché à faire cette démarche. Mais par contre, effectivement, après... une fois que cette conscience nous est venue et qu'on a décidé d'assumer ce rôle, oui, là, il y avait vraiment expliqué en quoi tout est politique, en quoi tout ce qui concerne les femmes, du prix du Tampax jusqu'à le rose pour les filles et le bleu pour les garçons, en quoi tout ceci est politique, en quoi tout ceci est intéressant et que ça n'est pas que par les chiffons. C'est en soi de la politique et que donc il n'y a absolument rien de méprisable et qu'il faut donc que les articles qui traitent de ces sujets les traitent aussi sous cet angle sociétal important.
Vous aviez une démarche qui était parfois très ironique, comme par exemple en prenant l'image des quiches. Est-ce qu'il y avait une envie de retourner le stigmate, de vous approprier cette vision-là pour mieux la rendre ridicule ?
Oui, partant de là, on était un média qui se voulait grand public. Donc, il était hors de question de se dire que le féminisme allait être une niche réservée à des intellectuels de gauche. Il était question pour nous, au contraire, de l'ouvrir le plus possible. Donc, on était complètement dans une démarche d'ouverture à tous et à toutes. D'ailleurs, Cosette est un magazine qui s'adresse majoritairement aux femmes, mais on a toujours été très heureuse quand on a vu que des hommes aussi lisaient. Et pour que ça soit possible, il fallait qu'il y ait de l'humour. Il fallait qu'il y ait une forme de légèreté de ton, mais encore une fois, la légèreté était dans le ton, pas dans le fond. On a toujours essayé de faire ce grand écart entre un ton léger et un fond un peu costaud, quoi.
Et l'humour, c'est une bonne façon aussi d'aborder des sujets politiques, selon vous ?
Ouais, ça l'a été parce qu'il y a aussi beaucoup de choses, tout ce qu'on mettait dans les quiches, c'était quand même des choses qui étaient finalement très répétitives. C'est tous ces petits objets du marketing spécifiques pour les femmes. On peut pas à chaque fois créer de l'analyse. Il fallait aussi pouvoir juste pointer le fait que ça existait, que bon, c'était quand même pas possible. Mais par contre, ne pas s'enfoncer dans une déprime. Au contraire, sortir par l'humour, c'est sortir par le haut. Donc ça permettait un de rester lisible. Mais deux aussi, je pense que même pour soi, pour chacun, face à la violence de ce monde et au mépris dont on peut être l'objet parfois, l'humour, ça reste quand même la meilleure porte de sortie.
Vous êtes restée donc 6 ans en tant que rédactrice en chef de Cosette. Ensuite, vous avez intégré l'ONG Ensemble Agir contre la peine de mort. Vous aviez alors un rôle plutôt de communication autour des congrès mondiaux contre la peine de mort. Qu'est-ce qui a motivé ce changement ?
Quand j'ai monté Cosette, je n'avais pas eu avant ça l'intention d'être journaliste. C'est vraiment le projet Cosette qui m'a motivée et qui a fait que je suis devenue rédactrice en chef. Mais en sortant de Cosette, il me serait pas venu à l'esprit d'aller dans un autre magazine parce que mon moteur, c'était la création de Cosette. Donc une fois qu'il y avait plus Cosette, effectivement, j'ai pas du tout cherché à rester dans le journalisme. Par contre, ce que Cosette avait fait naître en moi, c'était une conscience de l'importance du militantisme et je me serais plus vue aller travailler dans n'importe quelle entreprise. Enfin, j'avais quand même besoin de travailler, d'œuvrer pour mes valeurs. J'avais des valeurs que je voulais transmettre et je pense que ça restera le leitmotiv de toute ma vie. Donc, partant de là, des valeurs, j'en ai un certain nombre. Effectivement, je me suis pas sentie non plus condamnée à rester féministe professionnelle toute ma vie. Je pense que l'idée, c'était plutôt de continuer d'avoir une vie en accord avec mes valeurs. Donc, en fait, il y avait des valeurs, j'en ai beaucoup. Donc, il y avait beaucoup de possibilités pour moi. Et il se trouve que j'ai eu la chance de croiser le chemin de Ensemble contre la peine de mort. Et grâce à eux, j'ai vécu ces belles aventures des congrès mondiaux contre la peine de mort, qui étaient aussi peut-être moins connus et moins grand public que Cosette, mais qui étaient quand même des sacrées aventures. On a vécu des chouettes années.
Dans les écoles et le milieu journalistique, on pose souvent la neutralité comme un principe fondamental qui devrait guider le travail des journalistes. À partir de là, comment est-ce que vous pensez qu'on peut concilier un peu une double identité, comme vous aviez chez Cosette, entre la militante féministe et la journaliste? Est-ce que, selon vous, il est possible d'être une très bonne journaliste tout en ayant des engagements et en les exprimant dans son travail?
En fait, là, pour Cosette, mais comme pour plein d'autres moments, finalement, vous avez la différence entre le fait d'être militant et le fait d'être engagé. Effectivement, comme journaliste, on ne peut pas être militant, parce qu'on ne peut pas être militant d'une association. On ne peut pas être représentant... on ne voulait pas être représentant de tel type de féminisme plutôt que de tel autre, parce qu'il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur du féminisme et ce n'est pas forcément des gens qui s'accordent toujours. Nous, on était engagés pour les femmes, on était engagés auprès du féminisme en général, mais on n'était pas militants d'une association. Donc, ce qui veut dire qu'on avait non seulement la liberté, mais le devoir de représenter toutes les voix du féminisme et de donner la parole à différents types de féminisme, dont un certain nombre qui ne pouvaient pas se saquer et qui, de toute manière, avaient une vision du monde résolument différente. C'est dans le sens là qu'on évitait le militantisme. Par contre, à aucun moment on a refusé d'avoir un point de vue et à aucun moment on s'est cantonné dans la neutralité. Ça, c'était hors de question. On n'était pas neutre, on était féministe.
Et c'était pas difficile des fois de privilégier justement certaines formes de féminisme qui correspondent plus à nos propres visions en tant que rédactrice en chef?
Pas du tout, parce que en fait, comme moi, j'avais pas derrière moi, et puis les autres personnes qui m'entouraient aussi, on n'avait pas 15 ans de féminisme derrière nous. Encore une fois, c'était pas la démarche première. Donc finalement, on rencontrait plein de gens et tout ceci était très neuf. Et on était au contraire très excités et très heureux d'avoir la chance de rencontrer autant de personnes avec des raisonnements aussi foisonnants. Et c'était très, très riche. Après, ne pas être dogmatique, c'est à chacun d'être suffisamment intelligent. Mais c'était pas du tout compliqué de s'intéresser à quelqu'un qui pouvait avoir une vision très... très théorique du féminisme, avec des bases universitaires très, très compliquées à comprendre. Et puis le lendemain, aller interviewer des personnes qui étaient les mains dans le cambouis, sur le terrain, en train d'aider les femmes battues. Et puis, c'est des gens qui n'ont pas du tout la même vision du monde, pas du tout la même vision du féminisme. Et nous, c'était toute la richesse, c'était de voir à quel point ce paysage était hétéroclite et riche. Et ça, c'était au contraire, c'était pas du tout difficile, c'était passionnant. Nous, dans notre réflexion, d'avoir eu à avoir accès à autant de gens différents, ça a été passionnant.
Et il y a des rencontres comme ça qui vous ont marqué particulièrement dans ce travail chez Cosette?
Si vous parlez du féminisme, oui, moi je sais que depuis, il y a des personnes comme Réjeanne Sénac, comme Irène Théry, que je suis et dont le travail m'intéresse et qui sont vraiment des personnes qui pensent le féminisme. Oui, après les autres personnes que j'ai en tête là, c'était pas forcément sur le même sujet, donc c'est pas forcément ce qui vous intéresse. Mais si, je le dis, Bully Lanners, j'ai adoré. Moi, je suis ultra fan de Bully Lanners maintenant que je l'ai rencontré. D'autres personnes comme ça, voilà, tout n'était pas que centré autour du féminisme à Cosette. Et on a rencontré beaucoup, beaucoup de gens. Il y a des gens dont le nom m'échappe à cette heure-ci, là, mais je crois que c'était Stéphane Lavignotte qui était... un religieux très très investi dans la cité, très très investi auprès des gens. Enfin, on a rencontré énormément de gens passionnants.
Vous avez publié en 2016 le livre illustré Sexe sans complexe, un manuel d'éducation sexuelle à destination des ados et qui parle donc sans tabou des corps, de la sexualité et de l'amour. Comment est née cette envie d'écrire ce livre et de parler de sexualité au public adolescent? Est-ce que c'est lié à votre expérience chez Cosette ou c'est quelque chose de complètement différent que vous vouliez développer de votre côté?
Oui, complètement. J'avais beaucoup, beaucoup... forcément, le sujet de la sexualité intéresse beaucoup les féministes, donc j'avais accumulé pas mal de réflexions sur le sujet. Puis c'est une rencontre avec Actes Sud Junior où je me suis rendu compte vraiment que j'avais quand même beaucoup de choses à en dire et que ça pouvait être intéressant, voire important, de pouvoir rendre accessible aux personnes qui sont en train de vivre cette problématique de l'entrée dans la sexualité, de leur rendre accessible des pensées féministe, mais alors pour le coup, ce livre ne s'adresse pas qu'aux jeunes filles, c'est aussi pour les jeunes hommes, parce que c'est plus une réflexion sur le respect et sur la façon dont s'imbrique la domination avec la sexualité, et donc comment on se met dans tout ça, et c'était surtout pas, certainement pas un livre... qui donnerait une vision moralisatrice de la sexualité. C'est certainement pas le but, loin de là. L'idée, c'était justement de sortir de la sexualité qui sera enseignée aux jeunes uniquement sous l'angle de « attention, il faut pas avoir d'enfant », ou alors sous l'angle de « attention, MST ». Enfin, c'était, je voulais vraiment sortir de ça. On en parle aussi, hein. Je fais aussi le point sur ces choses-là qui sont très importantes. Mais par contre, aller parler de plaisir, de faire l'amour, de vraiment rentrer dans le vif du sujet et d'expliquer voilà, ce qui se passe, du respect qu'on a envers soi et du respect qu'on a envers l'autre au moment où on est en train de se faire les premiers bisous, au moment où on fait l'amour la première fois, au moment où on fait l'amour pour de vrai, au moment des préliminaires, rentrer vraiment dans le vif du sujet, dire les choses, dire les mots et aider les jeunes à le faire en se sentant respectés, et ce qui permet d'autant plus de s'éclater par ailleurs, mais en n'allant pas reproduire des schémas qu'on voudrait pas à ce moment-là.
Vous venez de l'aborder brièvement, mais dans votre livre, vous parlez de la question de l'appropriation du corps aussi, de l'attirance sexuelle, hétéro-homosexuelle, ou encore de la masturbation, qu'elle soit masculine ou féminine. En quoi c'était important du coup d'aborder ces questions-là spécifiquement? Est-ce que les ateliers et cours d'éducation sexuelle ne s'emparaient pas suffisamment, à votre avis, de ces sujets-là?
C'est trop peu. Je connais un certain nombre de personnes qui font effectivement des ateliers auprès des lycéens, mais ils les voient très peu en fait. Un jeune là, quand il fait son parcours scolaire, va pas avoir beaucoup de moments où il va avoir des intervenants extérieurs et non pas le prof de sciences nat pour aller parler de ces choses-là, quoi. Donc non, je pense qu'il n'y a pas assez d'éducation sexuelle pour les jeunes, ça c'est clair. Je pense que les parents sont pas forcément bien placés. Moi, ce livre-là, je l'ai écrit en me disant vraiment que c'était pas forcément possible et même pas forcément souhaitable que ce soit les parents qui expliquent, d'où les parents vont commencer à parler masturbation. Alors, enfin, non, bien sûr que non. Donc, il fallait une tierce personne. C'est un livre que j'espère toujours qu'il y aura une tante ou un parrain, une marraine bienveillant qui offriront le livre à un pré-ado ou à un jeune ado avant qu'il soit déjà complètement face au problème. Faut vraiment trouver le bon timing en fonction de la maturité du jeune. On est toujours un peu étonné, en général, ils sont toujours un peu plus en avance que ce qu'on croit ou que ce qu'on espère. Donc, faut quand même être un peu en alerte sur ce sujet-là. Mais je pense toujours à une personne qui serait pas les parents et qui pourrait offrir ce livre aux jeunes en lui disant, bon, là, c'est des questions que tu te poses peut-être déjà ou que tu vas te poser bientôt. Ça serait bien que tu lises ce livre avant de commencer à avoir des images qui pourraient te choquer ou avoir des relations avec les autres qui pourraient être un peu déstabilisantes, quoi.
On parle souvent de la période de mai 68 comme une période de libération sexuelle. Est-ce que, selon vous, 40 ans plus tard, il y a encore des combats à mener en termes de libération sexuelle ?
Oui, bon, on n'est pas prêt d'en sortir, hein, mais par contre, ça bouge. Je pense quand même que là, la visibilité des personnes transsexuelles, par exemple, a incroyablement avancé. Moi, je trouve ça fou ce qui se passe autour de la transidentité en ce moment. Je trouve ça vraiment intéressant et chouette. Et je pense que vraiment que les jeunes, à cette heure-ci, ont beaucoup plus accès à la compréhension de ça que ce que moi j'ai pu vivre étant jeune, par exemple. Pour l'homosexualité, il y a des vraies avancées, mais ça reste encore compliqué aussi. Voilà, ça avance, mais on revient de tellement loin, et puis il faut toujours retravailler, reprendre tout à zéro. Enfin, c'est oui, on est là. Les jeunes, quand ils ont accès à un discours sur la sexualité, ça reste encore, en gros, soit d'un côté le porno, soit de l'autre côté le prof de SVT qui te parle de la pilule et des MST. Donc il y a toujours pas vraiment de discours construit et sensé autour d'une sexualité épanouie. Oui, on a encore du travail là-dessus.
Est-ce que vous avez d'autres projets d'ouvrages à venir sur le sujet ?
Alors, pas sur le sujet, j'ai d'autres projets. Là, je suis en train de refaire un livre avec Actes Sud Junior, qui n'est pas du tout sur le même sujet. C'est un peu tôt là pour que j'en parle pour l'instant, mais on est en train de travailler là sur un prochain opus qui sera aussi pour les jeunes à peu près du même âge, mais sur un autre sujet.
Qu'est-ce qui vous plaît dans l'idée de vous adresser à un public de jeunes ?
Il y a quand même... C'est quand même des gens qui sont encore en train de réfléchir et de se former. Après, je dis ça, avec Cosette, on avait quand même fait le pari de s'adresser à des gens plus âgés. Et donc, on avait quand même... aussi le sentiment que les gens pouvaient continuer à réfléchir et à se former l'esprit en étant plus âgés. Mais c'est vrai que ce qui est très agréable quand on est dans la littérature jeunesse, c'est quand même de se dire que là, on est face à des personnes qui sont encore capables de tout remettre en jeu, de tout remettre en cause, qui sont et que donc il est possible de... Moi, quand je leur écris, quand j'écris pour un public jeune, je simplifie pas beaucoup, en fait, le propos. Après, je fais attention à mes phrases, mais par contre, je garde quand même un propos assez complexe, parce que je trouve que c'est quand même aussi une période où les jeunes sont capables d'une grande dextérité d'esprit et qu'ils sont vraiment capables d'avancer et de se remettre en question. On fait rarement le pari de l'intelligence, ce que je trouve dommage, parce qu'en fait, il y a des gros potentiels d'intelligence chez beaucoup de gens. Et je trouve qu'on peut avoir des très bonnes nouvelles quand on fait ce pari de l'intelligence des gens. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse. Et puis, je trouve que derrière, il y a vraiment du répondant. Je ne crois pas me tromper en faisant ce pari-là.
Pour revenir un peu à ce que vous faites aujourd'hui, vous avez rejoint Cube Culture Bretagne, une plateforme numérique en accès libre où sont diffusés des documentaires, des fictions, des créations sonores, mais également de la photographie, des articles. Vous êtes la coordinatrice générale de Cube. Vous quittez ici donc une presse et une ONG au niveau d'action nationale pour un média régional axé principalement sur le domaine culturel. Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer d'angle comme ça et d'intégrer Culture Bretagne ?
Alors, j'ai pas le sentiment de changer d'angle. En fait, moi, ce qui m'a fait changer d'angle plutôt, c'était Ensemble contre la peine de mort, où j'ai quitté le monde de la culture pour aller vers les droits de l'homme, ce qui m'a beaucoup plu. J'ai quand même passé 4 ans et c'était une belle période. Mais en sortant de ces 4 années chez Ensemble contre la peine de mort, j'ai eu le désir de revenir vers la culture parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment ça, mon véritable biotope. Donc, en travaillant pour Cube, j'ai plutôt le sentiment de revenir, peut-être pas à la maison, mais en tout cas de revenir à mes premières amours. Le documentaire, enfin moi j'ai vraiment un fort, fort, fort penchant pour le documentaire d'auteur depuis toujours. Et en commençant à travailler pour Cube, j'ai plus le sentiment de revenir un peu à mes premières amours.
Il n'y a pas beaucoup de création à proprement dite au sein de Cube. La plateforme réunit ce qui a été réalisé par divers médias de la région. Quel est l'objectif ici, du coup ? En quoi c'est important pour vous de réunir sur un seul site une pluralité de contenus et de regards sur la Bretagne ?
Je pense qu'il y a un peu l'idée d'être le porte-voix de la création contemporaine bretonne. C'est vraiment l'idée de pouvoir donner à voir, d'offrir une plateforme très libre et sans censure où les artistes peuvent s'exprimer en sachant qu'ils sont respectés et que leur travail est respecté. Donc il y a vraiment ce travail vers les artistes, de leur offrir un débouché à leurs œuvres et qu'ils ne se sentent pas tenus par des obligations marketing ou ce genre de choses. On leur offre une expression libre et assez pure. Et de l'autre côté, on a aussi une éthique en direction du public on se bat pour leur donner accès sans qu'il n'y ait à payer, leur donner un accès libre à des œuvres.
J'ai une dernière petite question du coup qui fait appel toujours à votre âme féministe. Si les femmes ont investi massivement le secteur de la culture ces dernières années, les places les plus prestigieuses et le devant de la scène médiatique sont souvent réservées aux hommes. Selon vous, est-ce que c'est aussi l'enjeu d'un média comme Culture Bretagne, comme Cube, de mettre en avant les femmes dans le secteur de la culture en Bretagne ?
Oui, enfin, il y a plusieurs choses. Mettre en avant, il faut toujours s'en méfier parce qu'on peut avoir effectivement une homepage sur une femme et puis derrière un site entier avec que des hommes. Donc il faut toujours se méfier de la façon dont on le fait. Je pense que c'est surtout un travail au quotidien de respect pour les œuvres des femmes et de diffuser les œuvres des femmes. Après, bien évidemment, ne pas hésiter à les mettre en avant aussi. Mais voilà, mais je pense que derrière le fait de mettre en avant, il y a surtout le fait d'être là toujours au quotidien et pas seulement au moment de faire du show-off devant les médias. Il faut être au quotidien avec les femmes, oui, clairement.
Et vous pensez que vous allez pouvoir continuer vos engagements militants ici en Bretagne sous la forme d'une association ou dans le cadre de votre travail à Culture Bretagne ?
Oui, bah ça c'est des enfin ça fait tellement partie de ma vie, ça fait tellement partie de moi. J'aurai constamment un œil là-dessus, c'est-à-dire que je vais travailler effectivement même au sein de Cube, faire attention à la façon dont on s'adresse à nos lecteurs, pas toujours présupposer que c'est des lecteurs mais que c'est aussi des lectrices. Ça peut être effectivement vérifier qu'on n'est pas en train d'oublier de mettre les femmes en avant quand on fait des mises en avant. Ça peut être trouver si on se demande si on va diffuser une œuvre ou pas, considérer que les valeurs que cette œuvre promeut sont importantes et que bien évidemment on ne va pas diffuser un film dont les valeurs seraient choquantes ou donc oui, bien évidemment, en fait, c'est transversal, que ce soit n'importe quelle valeur, le féminisme, l'abolitionnisme ou d'autres types d'engagement, c'est un peu transversal à tout, en fait. Bien évidemment qu'un merveilleux film qui promeut la peine de mort, quand bien même il serait très très beau, il est hors de question qu'on le diffuse, ça n'existera pas. Parce qu'il y a des choses qui sont trop choquantes. C'est dans le sens-là que les valeurs, oui, elles sont toujours... toujours présente. Et là, il se trouve que les valeurs pour lesquelles on va se battre de façon plus frontale avec Cube, c'est sur la diffusion de la culture. Par contre, les autres valeurs humanistes restent le canevas de base de tout mon travail.
Il y a besoin justement de se battre pour la diffusion de la culture. C'est un enjeu important pour vous ?
Oui, je pense que abandonner les gens sans culture, c'est vraiment préparer un monde inégalitaire et violent. Et je pense sincèrement que la culture, alors, ne peut pas être une solution seule, mais doit faire partie d'un lot de solutions proposées aux gens qui sont dans la difficulté. Oui, clairement. Même les personnes qui sont dans la difficulté, elles ont aussi des besoins psychiques, elles ont aussi des besoins culturels et le bien-être des personnes, ça passe aussi par une liberté d'esprit. La liberté d'esprit, on la gagne avec la culture.
Ben merci beaucoup Bérangère Portalier.
Merci à vous.
Merci à Jeanne et Bérangère Portalier, nouveaux membres de Cube, donc pour cet échange. On est heureux, honorés aussi d'accueillir une néo-bretonne de cette envergure et de cette réflexion si poussée. Je suis absolument conquis, je l'avoue. Et je salue aussi Jeanne pour cet échange entre deux journalistes, une discussion passionnante. Donc comme vous l'avez compris, bah bien sûr, les médiathèques sont fermées actuellement. Tout le secteur culturel tourne au ralenti, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Cube, KUB. La plateforme regorge de contenu audio, vidéo, de documentaires, d'articles à dévorer en cette période de confinement.
Allez aussi jeter un œil à son livre « Sexe sans complexe » et offrez-le à des jeunes autour de vous. Il est vraiment excellent. Bérangère Portalier nous disait d'ailleurs en off de cet entretien qu'elle était assez fière que ce livre ait été le livre le plus volé en médiathèque à sa sortie.